Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, content de vous retrouver. Ben oui, ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas entendu et vu. Vous avez rendez-vous comme chaque samedi sur Europe 1 à cette heure-ci avec une France que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, c'est le but du jeu. Ça se présente sous la forme de quatre sites que nous allons vous décrire pour vous inciter à les visiter. Exemple. Ah oui, alors là, on a eu du mal. Hein. En ce jour de Noël, nous nous sommes dit avec mon partenaire du Guide du Routard, Gavin Clémenté Ruiz, que vous allez entendre tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire de très original ? Bon, alors pourquoi ne pas proposer un site symbolique de l'art religieux ? Hein ? Un 25 décembre, c'est troublant de perspicacité. Oui, mais il fallait quelque chose de pas très connu. Alors, vous visiterez, pour le coup, dans un instant, un joyau de l'art religieux. Alors, on avait le choix, on s'est arrêté à Colmar, devant le retable d'Issenheim. Ensuite, direction le cœur de Chenonceau. Alors, c'est l'un des plus beaux châteaux de la Loire, d'accord, mais c'est une rencontre avec un mof, vous savez, un meilleur ouvrier de France. C'est pas un cuisinier, c'est un fleuriste. Et pourquoi là, dans l'enceinte du château, un peu de patience. Et puis à la fin d'émission, un site de plein air dans le Jura. Sur place, il faut de la neige, il y en a, des chevaux, et ça s'appelle le skidjuring. C'est un peu sportif. Oui, mais peut-être, pourquoi pas. On commence par un site de la catégorie insolite. Alors, vous allez mettre votre GPS perso sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir probablement un chef-d'œuvre de cette catégorie qui mérite votre curiosité. Nous allons où, monsieur Clémenté Ruiz ? Bonjour.
Bonjour William, bonjour à tous. Alors je vous emmène aujourd'hui dans le département de la Drôme, à Haute-Rive, c'est pas loin de Saint-Marcellin. Bien connu des amateurs de fromage et de pâtes molles. Alors là, ce n'est pas mou du tout. On est à Haute-Rive, c'est une région de collines, de rivières et de maisons aux murs en galets inclinés.
Et Qu'est-ce que c'est que ça, un galet incliné ?
Bah, des galets, bah, c'est pas drôle.
Non, ne me dites pas qu'on met un galet puis on le met.
C'est un petit peu.
C'est bien parce qu'à la radio, il me fait le geste. J'ai dit oui, d'accord, mais
c'est
à part
un petit
ça.
Peu, oui. Ah, attendez, je penche un petit peu.
C'est ça qui m'intrigue.
Mais c'est comme ça qu'on construit les maisons là-bas, avec les maisons et le toit en galet incliné pour pas que l'eau rentre dans la toiture.
Ah oui, le galet, il est incliné comme le toit.
Exactement.
Ah oui, d'accord, maintenant j'ai compris.
Et c'est pas pour les galets inclinés que je vous invite à aller à Haute-Rive.
Bah, quoi, là, vous faites dans le suspense. On y va pourquoi alors ?
Alors, on y va. Parce qu'habituellement, on vous propose des sites peu connus, mais pour une fois, en voici un célèbre.
Ah.
Mais comme on ne l'avait pas encore visité, on va le faire ensemble. C'est le palais idéal du facteur cheval.
Ah non, c'est vrai que c'est célèbre. Habituellement, on ne fait pas ça, mais ça méritait quand même un coup d'œil. Parce que là, en effet, c'est un site qui a fait l'objet de nombreux reportages, l'objet de livres, même des films. Mais pour une bonne raison, il est unique. On ne pouvait pas échapper à ça quand même.
Alors, il y a d'autres lieux qui existent dans le genre architecture originale, mais celui-ci, il n'a vraiment, William, aucune équivalence. C'est un lieu fou, c'est un lieu poétique, très didactique aussi, parce qu'on y apprend mille et une choses.
Oui, c'est vrai. Alors, un peu histoire avant de parler avec notre invité tout à l'heure. Alors, qui a fait quoi dans ce lieu ? Quand et comment ?
Alors, le palais idéal du facteur cheval, William, il a été construit à la fin du 19e siècle par un seul homme, Ferdinand Cheval, d'où le nom. Il a tout fait. C'est un autodidacte. Mmh. Dans la vie, il est facteur. On raconte qu'au cours d'une tournée, il a buté sur une pierre qu'il rapporte ensuite chez lui.
Oui.
Et c'est là que tout commence. On est en avril 1879. Ensuite, il rapporte chaque jour des pierres, plus ou moins différentes, pour construire un chef-d'œuvre monumental. Un véritable musée du monde, j'ai envie de dire.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites là. Musée du monde, c'est-à-dire il n'a pas fait toujours la même maison ou à peu près, ou des maisons plutôt européennes ou françaises. Non.
Il s'est inspiré de tout ce qu'il a vu pendant 33 ans avec les cartes postales qu'il délivrait aux hommes et aux femmes à qui il distribue le courrier.
Alors, vous disiez qu'il n'y avait pas d'équivalent, ça c'est vrai. Et au détour de votre visite, il faudra y aller un jour, vous croiserez des animaux en ciment, une cascade, une grotte. Un peu plus loin, vous êtes face à une maison, là, j'ai des photos au fur et à mesure extraites de d'internet. Et alors là, ça ressemble à un temple comme en Corvate au Cambodge, mais en fait, on est dans la Drôme. Et est-ce qu'il appartenait, je ne sais pas, de près ou de loin, à un groupe d'artistes ou à un mouvement, ou alors au début, il était cheval et il était facteur cheval ?
Eh bien, en effet, il n'était que cheval, mais déjà cheval. Il était en dehors de tout courant artistique. Il a construit cet ensemble sans aucune règle d'architecture. Hein. C'est vraiment un melting pot, j'ai envie de dire, un patchwork de toutes les influences architecturales. Mais par contre, il a été adulé par plein de grands artistes, parmi lesquels notamment les surréalistes, mais pas seulement.
Eh ben oui, parce qu'on n'avait jamais vu une telle concentration d'originalité, si j'ose dire. Les surréalistes, ça a dû leur plaire, ça. Alors justement, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Frédéric Legros, qui est gouverneur du Palais, hein. Alors, plus prosaïquement, il en est le directeur. Bonjour Frédéric, c'est très bien aussi. Hein.
Bonjour, oui.
Bonjour monsieur le directeur. Alors, quelques mots sur ce facteur qui ressemble à personne. Hein. Cet homme est un poète. Il avait quel âge quand il s'est lancé dans cette aventure-là? Et puis, à l'époque, est-ce qu'il a expliqué pourquoi il voulait faire ce palais?
Alors, quand il se lance dans la construction du bâtiment, il a 43 ans. C'est après avoir trébuché sur une pierre qui fut le déclic de cette construction au printemps 1879. Par contre, il dit qu'il en a rêvé pendant 10 ans, qu'il l'a construit dans sa tête, qu'il l'a imaginé. Ah bon ? Il avait fait même des dessins à l'époque. Ah mais oui. À 43 ans, il trébuche sur cette pierre et c'est là qu'il se dit qu'il va se lancer dans la construction du palais idéal.
La pierre en question, parce que là vous en parlez, Gavis en a parlé, c'est un peu la légende. Est-ce qu'il y a un endroit, un mur dans lequel on vous dit « Tiens, c'est la première pierre du facteur » Non.
Exactement. Non, exactement, si, si.
Ah ouais j'ai dit ça un peu au hasard, moi.
non, il l'a conservé, ce qui est assez beau d'ailleurs, parce que c'est un des derniers éléments qu'il place sur le palais. Il l'a gardé pendant plus de 30 ans,
ouais.
Et il la place sur la terrasse, en majesté, sur un socle, voilà.
Ah,
et
oui.
Maintenant,
tout est
elle fait la joie des visiteurs.
C'est dingue, ça, il dit, et tout est parti de là, quoi.
Oui, tout à fait.
On raconte qu'il a, et Gavis le rappelait, qu'il a trouvé son inspiration parce qu'il distribuait à ses clients là, des cartes postales qu'il livrait pendant sa tournée. Et en regardant ça, il dessinait ensuite, je suppose, en disant « un jour je ferai peut-être », etc.
Exactement, mais aussi beaucoup au travers de magazines illustrés hein, de l'époque. Notamment, il lisait un magazine qui s'appelait le Magasin Pittoresque, qui était illustré de gravures. Et au travers de ces gravures, il va découvrir le monde et le reproduire dans son palais. C'est aussi le moment des grandes expositions, universelles.
Ah, d'accord.
Donc, il y a toute ouverture sur le monde. À ce moment-là, il y a aussi une exposition universelle qui est à Lyon, donc il en entend forcément parler, voilà. Et ça vient nourrir son imaginaire.
Bien sûr. Quelle est la surface du palais en question, là ?
Pour vous donner une idée, il fait 26 mètres de long, 12 mètres de large et 12 mètres de haut sur les points les plus hauts et
d'accord.
Entièrement construit à bout de bras.
Est-ce qu'il a construit juste des façades, comme je les vois là sur les photos, où il y a quelque chose à l'intérieur ?
Il n'a pas été fait pour y vivre hein, ou pour s'y installer. Il avait quand même prévu que ce soit son tombeau, même si ça n'arrivera pas. Mais par contre, on peut le traverser. Il y a une galerie qui traverse tout le bâtiment. On peut monter dessus. Il y a des escaliers. On peut monter sur la terrasse. Voilà, il y a aussi deux tours qu'il avait pensé. On peut cheminer à l'intérieur.
D'accord.
Par contre, effectivement, il n'est pas fait pour qu'on y reste.
Il utilisait quels matériaux ?
Alors, de la chaux principalement et de la molasse. Ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est qu'à l'époque, le béton armé n'existe pas encore. Mmh. Et lui a déjà l'idée d'utiliser des tiges de métal qui plongent dans la chaux et dans un liant très dur.
Oui.
Et ce qui lui permet de faire tous les ornements, mais qui maintient aussi le bâtiment.
Et oui, ça fait qu'il est solide et qu'il a traversé les époques.
Mais exactement.
Au moment où il commence ça, est-ce qu'on sait comment sa femme et sa famille le considèrent à ce moment-là ? C'est-à-dire, Ferdinand, il est sympa, il est rigolo, c'est un poète, ou alors comme un fada, comme on disait chez Pagnol ?
Alors, il y a un peu de tout. Dans le village, on dit que c'est le palais du fou. Certains, au contraire, sont déjà admiratifs hein, de cette force de travail. Sa femme, par exemple, c'est important de le dire, sa deuxième épouse, Philomène, était veuve. Et en fait, C'est l'argent du veuvage qui va permettre d'acheter le terrain, d'acheter les sacs de chaux. Et donc, Philomène, elle le soutient. Elle soutient l'excentricité, si on peut dire, de son époux. Et ce qui est paradoxal, c'est que dès 1905, le bâtiment est pas terminé. Lui, l'ouvre déjà au public. Ah. Et il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter le bâtiment.
Ouais, ouais. Ben, j'espère que ça lui a rapporté à l'époque un peu de sous, quoi. Pour visiter ce chef-d'œuvre, parce que il n'y a pas l'équivalent ni en France ni ailleurs. Je signale aussi rapidement, Frédéric, une exposition en ce moment, hein, temporaire, dédiée à Agnès Varda, parce que vous avez fait une passerelle entre les œuvres de la cinéaste et celle du facteur cheval. Je trouve que c'est une idée très originale. En tout cas, merci pour ces explications. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Frédéric.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Alors, on y va tous les jours ou pas ?
Oui, tous les jours, de 9h30 à 16h30 en décembre et janvier, et cela coûte 9€ pour un adulte, William.
Et on peut dormir dans le coin ?
Oui, bien sûr. Vous allez aller à l'hôtel-restaurant Le Relais à Haute-Rive. C'est à partir de 85€ pour deux personnes. Vous êtes dans une grosse demeure, une grande demeure du 19e siècle avec des larges murs, des grandes pièces. Il y a même des roulottes au fond du jardin, si vous voulez.
Mais il y a des galets en biais ou pas ? Pour en savoir plus, vous consultez europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Rappel de l'épisode précédent. Que vous proposez un 25 décembre à visiter dans cette émission ? Alors, on s'est mis très vite d'accord sur une œuvre sacrée dans un site remarquable. On a mis toutes les propositions dans une urne, parce que dans un vieux pays catholique comme le nôtre, le pays aux 45 000 églises, le choix est immense. Mais il fallait quand même une œuvre particulière, et le sort a désigné Colmar, Gavin.
Oui, Colmar en Alsace, William. L'œuvre à voir, c'est le retable d'Issenheim. Alors, je vous rappelle qu'un retable, c'est une construction verticale qui est située en arrière de la table de l'autel d'une chapelle ou d'une église. Ça, c'est pour le dictionnaire. Mais à Colmar, il y a le retable installé dans un endroit absolument extraordinaire. C'est le musée Unterlinden. On est en plein cœur de Colmar. Mmh. À l'origine, ce musée, eh bien, c'était un couvent dominicain à côté d'une chapelle qui était dédiée à Saint Jean sous le Tilleul, d'où Saint Jean Unter der Linde. Alors aujourd'hui, le musée, il est surnommé le Grand Louvre d'Alsace, et à juste titre, parce qu'il y a des collections qui sont vraiment superbes, de sculptures, de peintures du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Il y a aussi une section archéologique, il y a de l'art déco, de toute beauté. Bref, c'est très très riche, c'est le musée qu'il ne faut pas manquer en Alsace.
Alors, revenons au retable, est-ce qu'on peut dire que c'est la pièce principale du musée ou pas ?
Ah oui, carrément, c'est le chef-d'œuvre. Il est installé dans le cœur de l'ancienne église du couvent. Il s'agit alors en fait d'un ensemble de panneaux en bois peint qui s'ouvrait, qui se fermait et qui se consultait comme un livre, en fait, grand livre.
D'accord.
Mais c'est bien plus que ça. C'est, on l'appelle le Christ des pauvres qui est présenté là.
Pourquoi ?
Alors, je mets des guillemets à cette expression, parce que le Christ, il est livide. Il est fouetté avec des branches d'aubépine. On voit les traces des petits trous formés par l'aubépine. Mm-hmm. La Vierge est proche, elle est verdâtre un peu. C'est vraiment très étrange. Les couleurs sont hallucinantes. On pourrait trouver ça sinistre, mais vraiment, il y a une espèce de puissance qui illumine la pièce quand on rentre là dans ce musée. C'est vraiment, dans cette pièce, c'est magnifique.
Alors, pour en savoir plus sur ce retable, nous avons en ligne Panchika de Pape au téléphone, conservatrice du musée. Bonjour Panchika.
Bonjour.
Alors, si vous saviez comme je suis content de prononcer un aussi joli prénom, ça m'arrive assez rarement dans ma vie. Panchika, c'est formidable. Et puis en plus, votre nom de pape. Doudou, Panchika, c'est un peu basque, ça, non ? Ou je me trompe ?
C'est très basque, oui. Veut dire Françoise, hein, tout simplement.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça, moi j'avais une amie en classe, tout le monde l'appelait Kika. Elle devait s'appeler François.
Elle devait être... Oui.
Alors, dites-moi, Panchika, est-ce qu'on sait qui a fait cette œuvre-là tellement originale ?
Oui, on sait. Alors, l'œuvre n'est pas signée, hein, parce que cette œuvre du début du XVIe siècle, on ne signe pas à cette époque-là, mais on sait par comparaison avec d'autres œuvres. Et en fait, c'est un personnage qui s'appelle Matisse Nittart Gotthard. Alors, c'est un peu barbare, mais tout le monde l'a appelé, dès le XVIIe siècle, Grunewald.
Ah.
Et c'est un artiste allemand qui est né à Würzburg, donc en plein cœur de l'Allemagne, à la fin du XVe siècle, et qui est mort dans le nord de l'Allemagne, à Halle, en 1528. On connaît un peu sa vie, c'est un personnage un peu étrange. Alors, tout à l'heure, vous parliez du Christ des pauvres. En fait, il a vécu pas mal de choses, hein. Il a vécu la guerre des paysans, il a vécu le moment de la réforme. Donc, c'est un homme qui a beaucoup travaillé avec des hommes d'église, à qui il a répondu à diverses, pour lequel il a répondu à diverses commandes.
D'accord.
C'est un homme, on ne sait pas grand-chose de lui.
Alors, on a dit rapidement là, avec Gavin ce que représentait l'œuvre. On n'a pas tout dit là. C'est donc la crucifixion de Jésus, mais avec qui autour de lui ?
Alors ça, c'est un seul des ensembles. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait plusieurs ensembles. Mais quand les visiteurs ils rentrent dans la salle du musée, oui. Je peux vous assurer qu'ils sont vraiment pris à la gorge, parce que face à eux, ils vont se retrouver face à une œuvre. Ça fait 3,50 m de haut sur 6 mètres de large. Hein. Il faut dire les proportions.
Ah ouais, c'est
le Christ, le Christ, il est plus grand que moi, par exemple.
Oui.
Donc, vous arrivez et donc face à un ciel très très sombre, un paysage sombre. Vous avez un Christ qui est au centre de la composition,
oui.
Qui est vraiment un cadavre. Hein. La tête est tombée, les lèvres sont bleues, il est verdâtre, c'est horrible. Et rien que ses mains. En fait, quand vous voyez ses mains, il n'est pas du tout en forme, du tout en forme. Et quand on regarde à gauche, c'est assez beau, il y a comme un couple qui est en train de danser, il ne danse pas du tout, c'est Saint Jean qui soutient, d'ailleurs de son bras trop long, la Vierge qui vient de tomber, évanouie.
Oui, vous avez raison de préciser ça, il y a des petites erreurs comme ça, mais ça ne fait rien, ça donne le charme au tableau,
on a l'impression qu'il a
un bras qui fait 2 mètres de long, lui.
Vraiment, mais je pense que l'artiste a fait exprès, on le sait, hein, parce que l'artiste, il est ingénieur hydraulicien aussi, donc il ne fait pas ce genre de faute,
il
veut montrer le soutien de Jean à la Vierge. Et puis, juste à côté d'eux, à leurs pieds, toutes petites, mais si belles, il y a Marie-Madeleine avec ses longs cheveux, son voile transparent, et ses mains aussi. Dans le retable, il faut regarder toutes les mains. Là, elle a les mains croisées, Marie avec les mains enlacées l'une dans l'autre, en fait, en une prière très très forte. Mmh. Et puis à droite de la croix, il y a un personnage, lui, qui est imposant. Lui, il est bien posé, comme les chanteurs d'opéra, vous savez, il a les jambes écartées, il est bien posé.
Et lui...
Il montre du doigt plaie du Christ.
Ah, d'accord.
Et on sait qui il est parce qu'il est vêtu de sa tunique de chameau. On voit en dessous de sa grande tunique rouge qui est par-dessus. C'est Saint Jean-Baptiste.
Ah, d'accord. Il a un livre dans la main.
Il a un livre dans la main, certainement l'Ancien Testament, puisque c'est les derniers prophètes de l'Ancien Testament.
D'accord.
Et de son doigt pointé vers la plaie, au-dessus, il y a une phrase qui est en latin, mais qui est une phrase que dit normalement Jean, l'autre Jean, celui qui est à gauche, mais qui dit « Il faut que tu grandisses et que je diminue ». Il est en train de dire aux gens qui venaient voir ce tableau, qui lisaient certains le latin, mais d'autres ont leur raconté, « Ah ben oui, c'est ça l'histoire. Il est là pour ça, Jean-Baptiste. » Parce que normalement, il est mort. Hein. Au moment de la crucifixion du Christ, Jean-Baptiste, il n'est pas là. Donc là, on le met là parce qu'on veut dire « Ah oui, moi, j'ai fini. J'étais l'ancien prophète. Mais maintenant, je montre du doigt celui qui est là.
Alors,
devant vous et qui meurt pour vous. »
En tout cas, on va dire à nos amis qui écoutent, allez voir ce retable qui est pas banal. Dans les proportions, je vois Jésus, il a des bras excessivement longs aussi. Il a ce pagne qui l'entoure, qui ne ressemble pas à ce qu'on faisait habituellement. Il y a une urne au pied de la croix. Il faudra expliquer tout ça quand vous irez, madame, monsieur, bien sûr. Qu'est-ce qui rend ce retable unique en dehors de ce que je viens de dire ?
Mais en fait, je crois que chaque visiteur qui vient au musée, qui croit ou qui ne croit pas, qu'il aime les musées ou pas, quand il arrive face à cette œuvre qui est multiple, hein, il n'y a pas que la crucifixion, à chaque fois, il va trouver quelque chose qui va lui parler, parce qu'il y a la souffrance, il y a la violence, il y a la douleur, mais à côté, il y a l'espoir, il y a la douceur, il y a la sérénité. Quel que soit votre sentiment au moment où vous arrivez au musée, vous trouvez quelque chose... Face à cette œuvre-là, il vous parle. Cette œuvre vous parle encore aujourd'hui au XXIe siècle, et c'est ça qui fait sa magie, et c'est pour ça qu'on parle d'un chef-d'œuvre depuis toujours.
Et peu importe si on est croyant ou pas.
Exactement.
On m'a dit aussi qu'il fallait absolument visiter le cloître.
Mais oui, parce que quand vous rentrez, bon, Colmar, c'est une ville pas très grande, mais un bassin de 100 000 habitants, donc c'est une ville animée. Et quand vous arrivez dans ce cloître, c'est tout calme, vous entendez les oiseaux, et puis vous déambulez comme vous pouvez, j'imagine, le faire les religieuses lorsqu'elles étaient là depuis le XIIIe siècle. C'était leur lieu de méditation, de prière. Et là, c'est juste un lieu de calme. Il y a plusieurs personnes qui viennent souvent, quand il fait beau, ils viennent s'installer au milieu du cloître avec leurs livres, ils viennent lire.
Ouais,
parce qu'un musée, c'est aussi un lieu où on peut échanger, méditer, lire.
Et puis en été, il fait bon.
Il fait très bon, ouais.
On peut voir, il y a paraît-il une galerie, ça j'ai pas vu sur les documents, dans laquelle sont exposées des œuvres d'artistes renommés, c'est ça ?
Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, en 2015, on a fait agrandir le musée par les architectes très célèbres, Herzog et de Morand. Et à côté du couvent, ils ont créé une architecture vraiment du 21e siècle, enrobant des anciens bains municipaux de 1906. Et dans toute cette partie-là, donc dans la galerie et dans les nouveaux bâtiments, il y a de l'art moderne. Et donc, souvent, les visiteurs sont étonnés parce qu'ils se disent mais il y a aussi du Monet, il y a du Rodin, il y a du Bonnard, il y a du Picasso. Ah, mais, et en fait, ça fait un tout. Il y a vraiment tout.
C'est bien ce contraste. Il faut une bonne journée pour voir tout ça, hein, tranquillement.
Alors là, il ne faut peut-être pas faire peur à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui restent toute la journée. Mmh. Après, il y en a d'autres qui vont très vite et qui veulent juste revoir le retable et qui restent un quart d'heure. D'accord. Mais on pourrait rester la journée, ouais.
D'accord. Panchika, je vous remercie de cette visite rapide. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci, très bonne journée. Au revoir.
Alors, Gavin, c'est ouvert quand ?
Eh bien, c'est ouvert du mercredi au lundi de 9h à 18h. Ça coûte 13€ et 15€ si vous ajoutez l'audioguide. Et je vous le conseille, prenez l'audioguide. Notez que, pour marquer la fin de cette restauration exceptionnelle, le musée Unterlinden organisera à partir du 2 avril 2022 une programmation culturelle ouverte à tous sous l'intitulé « Le printemps du retable ». De nombreux événements vont être organisés. Il y aura des pièces de théâtre, des concerts, des conférences et des rencontres avec des restauratrices et notamment Panchika qui viendra vous parler du fameux retable et elle est une conteuse
restauratrice
passionnée.
Qui restaure des tableaux, pas la gastronomie. Tant qu'on est à Colmar, tiens, à ce propos, on peut visiter la ville et puis s'arrêter, déjeuner ou...
On en profite parce qu'en ce moment, il y a les marchés de Noël. Ah. Il y en a 6 jusqu'au 29 décembre dans la ville illuminée et décorée comme dans un conte de fées. C'est vraiment très beau. J'y étais il y a quelques jours, j'ai adoré. On se prend tous en photo devant la petite Venise éclairée. C'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est, Venise éclairée ?
C'est un petit quartier de Colmar avec un pont, une petite rivière, les immeubles autour qui sont très beaux. On se croirait dans une carte postale. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de visiter les canaux et la rivière Loche.
Alors, un hôtel ?
Eh bien, le Colombier, dans la petite Venise, justement. Encore une fois, c'est un bel hôtel design et élégant, avec des murs à colombages. C'est vraiment très beau. Il y a des tourelles, il y a des chambres très spacieuses. Et le petit-déj est top, je l'ai testé et approuvé. C'est à partir de 110€ la nuit à deux.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Dans Samedi en France, aujourd'hui, comme d'habitude désormais, voici un site où s'exerce un savoir-faire exceptionnel. Alors, certes, le lieu est royal, vous allez comprendre pourquoi, mais le métier de celui qui l'exerce dans ces lieux-là est inattendu. Vous connaissez bien sûr l'appellation MOF, M-O-F, meilleur ouvrier de France. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un cuisinier. D'ailleurs, je vous signale que cette distinction, MOF, ça concerne plus de 200 métiers de l'artisanat, dont celui de fleuriste qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, un fleuriste dans un cadre de rêve, donc où allons-nous, Gavins, et pourquoi là ?
Alors, nous allons à Chenonceau, un cadre de rêve en effet, qu'on surnomme aussi le château des dames, parce qu'il a appartenu à 6 femmes, dont Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, et Catherine de Médicis, sa femme. Cette œuvre d'art est située dans le département de l'Indre-et-Loire. On est à 3 quarts d'heure de route de Tours.
Oui, on dit œuvre d'art parce que notamment avec les arches qui enjambent le Cher.
C'est ça.
On montre toujours cette photo-là, c'est la plus connue.
Exactement, et c'est même le seul château-pont au monde.
Château-pont,
ouais, un château-pont, ouais, on dit ça. Et je vous conseille de visiter la grande galerie qui est au-dessus du pont. Elle fait plus de 60 mètres de long.
Alors justement, visiter Chenonceau, ça c'est plutôt une bonne idée. Alors, mais une autre chose nous a attiré et qui justifie en partie de vous déplacer là-bas, ce sont les fleurs, mais il faut expliquer.
Eh oui, William, parce que certains visiteurs ne viennent que pour ça. Pourquoi Chenonceau est aussi connu pour ses 200 compositions florales, attention, hebdomadaires. Imaginez, chaque semaine...
200 bouquets de fleurs.
C'est pas mal.
Record battu, à ma connaissance. Hein.
Ouais. Même dans les grands palaces parisiens, on ne fait pas autant.
Ouais.
Et il y a carrément un atelier floral dans le château. Imaginez, près de 4000 tiges de fleurs sont utilisées chaque semaine, toute l'année, pour réaliser des compositions florales.
C'est un boulot à plein temps. Hein.
Ah, mais carrément, complètement, ils sont plusieurs. Et c'est en lien avec...
J'espère.
Et chaque bouquet est en lien avec les couleurs de la pièce du château. Mais il est aussi en lien, bien sûr, avec la saison. Et tout ça, c'est sous la responsabilité de Jean-François Boucher.
Alors, ça mérite d'en savoir un petit peu plus, là. Jean-François Boucher, qui est donc meilleur ouvrier de France. Et alors, scénographe floral de Chenonceau. Ça fait chic sur la carte de visite, non ? C'est avec lui que nous sommes en ligne. Bonjour Jean-François.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'Europe 1.
Alors, chef des fleuristes de Chenonceau, bon, c'est une sorte de consécration pour un fleuriste, non ?
C'est exactement ça. Après le titre de meilleur ouvrier de France, c'est vrai que travailler dans un lieu comme ça, c'est absolument idyllique.
Depuis combien de temps vous êtes floriste à Chenonceau, chef, directeur floriste?
Alors, je suis scénographe floral du château de Chenonceau depuis 6 ans, mais l'atelier est présent depuis 30 ans.
Ah, d'accord. Alors, moi j'ai fleuri, vous êtes un artiste, quoi. Vous, parce que, franchement... Moi, j'ai les photos, j'ai pas vu Chenonceau avec tous ses bouquets, mais vous donnez vie à ce château, parce qu'on a l'impression parfois, quand on regarde les châteaux le château de près, on dirait que Diane de Poitiers ou son ennemie préférée, Catherine de Médicis, y habite encore, quoi. C'est incroyable, parce que les fleurs, ça peut donner un sentiment de présence, non ?
Ben c'est exactement ça, et c'est pour ça que notre conservateur, et qui est conservateur actuel du château, avait souhaité cet atelier floral pour humaniser ces vieux murs, et puis pour rendre jolie la visite, quoi, agréable la visite.
Mais il y a des contraintes, je suppose, parce que alors, il y a une harmonie à trouver en toute saison entre les couleurs des pièces du château, l'ameublement et les fleurs.
Alors, ce sont pas vraiment des contraintes, puisqu'on est un élément de décor dans un décor existant. Donc, à partir du moment où, avec mon équipe, on est dans les tons, dans les camaïeux de la pièce, ce n'est pas une contrainte, c'est juste dans le cahier des charges, point barre.
Oui. Oui, mais c'est dans le cahier des charges.
Bah oui, mais ça tombe juste sous le sens.
Toutes les pièces sont décorées ou pas?
Alors, effectivement, toutes les pièces du château sont fleuries.
Et vous utilisez des fleurs de saison à chaque fois ?
Alors, on a la chance d'avoir sur la propriété un potager des fleurs qui fait 1,8 hectare, donc qui nous est dédié. Et c'était le potager nourricier du château qui a été transformé en potager des fleurs. Mais bon, par exemple, à cette saison, parce qu'à Noël, il est fleuri, on est obligé d'acheter une grande majorité de nos fleurs.
Bien sûr. Pour les fêtes de fin d'année, ça représente une préparation de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, je suppose.
Oui, parce que en début d'année, on choisit un thème et après, on travaille dessus avec des références historiques, des références liées à l'ADN de Chenonceau et aux femmes de Chenonceau notamment.
Ah bon,
donc,
vous choisissez un thème. D'accord. Alors là, par exemple, Noël 2021, quel est le thème ?
Alors, c'est Chenonceau, un paradis royal.
D'accord. Et quand vous dites ça, moi, je dois traduire avec quel genre de fleurs ?
Alors, c'est pas trop des fleurs, mais c'est des clins d'œil dans chaque pièce. Par exemple, à notre reine, notre principale reine qui a vécu à Chenonceau, Catherine de Médicis, on a recréé le monogramme de Catherine de Médicis, donc les deux C entrecroisés, entrelacés, comme les deux C de Chanel, pour que ça parle aux auditeurs. Mais également à Marie Stuart, qui a passé son enfance ici, reine d'Écosse, où on a fait un sapin avec plein de nœuds écossais, et puis de symboles écossais dedans. Donc, il y a dans les éléments, et puis on parle aussi du roi des forêts, parce qu'il y a la grande galerie qui est chargée de 70 sapins enneigés.
Seulement 70.
Seulement, oui.
Alors, le bonus maintenant, alors, vous organisez dans la ferme atelier dont vous avez parlé tout à l'heure, des séances d'apprentissage pour reproduire les bouquets qu'on peut voir. C'est quoi en gros la ferme atelier ?
Alors, en fait, c'est pas trop pour reproduire, mais c'est une sorte d'initiation à l'art floral. On fait des masterclass et pendant entre 1 heure et 2 heures, on accueille des groupes, alors plus ou moins grands, hein, ça peut aller de 2 personnes à beaucoup. Oui. Et on fait une petite initiation à l'art floral, soit moi, soit avec mon équipe. Et on donne des détails sur le fleurissement, sur comment tenir un bouquet, sur comment couper ses fleurs. Et les personnes font leur bouquet, repartent avec... Et trouvent un petit peu, enfin repartent avec un petit bout de Chenonceau également.
Oui. Petite question toute simple, le prix du bouquet, il est compris dans le prix d'entrée de la visite?
Non, alors c'est des accueils spécifiques quand même, mais bon oui, enfin ça a un coût parce que c'est un accueil spécifique,
mais
de repartir avec, c'est chouette, c'est... et puis on bénéficie de conseils de professionnels, donc c'est toujours sympa.
Par exemple, en cette saison, de quelles fleurs vous pouvez bénéficier et que vous faites venir d'ailleurs, je suppose?
On essaie quand même de travailler avec des fleurs françaises, notamment on a quand même des renoncules en ce moment, oui, des anémones qui viennent du Var, mais après on est effectivement obligé d'acheter avec des fleurs qui partent soit de Hollande ou du Danemark.
Moi c'est ça qui me frappe aussi, le fait qu'en Europe du Nord, c'est pas si loin que ça la Hollande, mais eux ils font quoi, des fleurs sous serre, c'est peut-être pour ça ?
Alors, c'est des fleurs sous serre. Il y a aussi beaucoup les Polonais qui produisent parce qu'à une période, leur ministère de l'Agriculture avait favorisé ces extensions de serre. C'est uniquement pour ça que ce sont devenus des gros, gros producteurs européens même mondiaux.
Ah, d'accord. Et vous, là, quelle est votre fleur préférée ?
Alors, moi, j'adore les hortensias. C'est une fleur que j'adore et plus particulièrement le vanille-fraise. Mais vraiment, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et on les voit beaucoup, d'ailleurs, dans les bouquets du château de Chenonceau.
Mais oui, et puis à la saison, c'est spectaculaire toujours. Hein. Bon, et ben, oui. Merci Jean-François. Et bravo pour cet atelier floral associé donc à Chenonceau. Je vous souhaite une excellente journée et de bonnes fêtes. Au revoir.
Eh bien, merci à vous. Au revoir.
Alors, Gavin, c'est la visite ?
Alors, la visite de Chenonceau, bien sûr. Mais
alors,
aussi
Chenonceau, bien sûr. Et puis après,
l'atelier. Oui, l'atelier. Oui. Comptez environ 60 euros et jusqu'à 120 euros. Tout dépend de la longueur de l'atelier et tout dépend aussi de la qualité des fleurs et du nombre de fleurs que vous allez utiliser.
Oui, si vous faites l'atelier, bien sûr.
Bien sûr. Mais il faut réserver. Et pour ça, il faut aller sur le site du château. Et j'ai tout mis sur europe1.fr.
Le coût d'atelier, c'est quoi ? Ça dure une heure et demie ?
Une heure à deux heures.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Bon, n'oubliez pas de bien profiter des compositions, c'était sûr, mais de visiter le château, parce que ça ne sert à rien une fois que vous êtes sur place. Je sais qu'il y a des gens qui viennent que pour les fleurs, parce qu'il y en a, comme il y en a partout.
Et c'est ça.
Là, comme ça, ils font les deux. C'est
un vrai, en fait, c'est un vrai spectacle, c'est une vraie expérience, j'ai envie de dire, une expérience florale, une expérience d'essence.
Non, mais je vais vous dire une chose, que parfois, à la télévision, vous voyez la femme du président des États-Unis qui fait visiter chaque année à Noël la Maison Blanche.
Exactement.
Avec des sapins, il y en a des centaines. Mais là, c'est pareil. En mieux.
En mieux et en France.
Voilà. Comme chaque samedi dans cette émission, nous demandons à une personnalité que vous aimez bien de nous parler d'une région, d'une ville chère à son cœur. Alors, voici interrogé par Daniel Moreau. Voici une ambassadrice de la Haute-Savoie. C'est la petite Nicole, que vous connaissez mieux sous le nom de Nicoletta. Ça veut dire la même chose. Elle a grandi entourée de sa mère, de sa grand-mère, à Vongis. C'est un petit village niché au cœur des Alpes. C'est près de Thonon-les-Bains. Voilà. Elle va nous faire partager les paysages de son enfance entre lacs, montagnes. C'est une escapade idéale, à mon avis, hein, pour les vacances d'hiver.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Nicoletta.
Bonjour, comment ça va ?
Très très bien, je sens que vous allez nous faire voyager dans les montagnes, parce que donc vous êtes née en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance dans le petit village de Vongis ? C'était comment autour de la petite Nicole ?
C'est très joli, il y a une rivière qui le traverse, qui s'appelle la Drance, et qui se jette dans les bras du Léman, après avoir coulé un bon kilomètre depuis mon village. Et il y a une réserve naturelle d'oiseaux, un estuaire, et c'est magnifique. Il y a des canards sauvages, il y a des poules d'eau, il y a des hérons, il y a des cygnes, bien sûr, avec leurs bébés, et tous ces gens cohabitent, enfin ces animaux cohabitent très très bien, et c'est des petits îlots, c'est comme une mini Camargue. Et c'est beau, ça se jette comme ça, la Drance se jette dans cet estuaire, et en face, il y a Lausanne, Vevey, il y a la Suisse, et c'est beau, pour un peu que des bateaux à vapeur passent, on a l'impression d'être déjà ailleurs qu'en France. Pour un peu qu'il neige, c'est somptueux, parce que tous les jardins, toutes les maisons, on voit des petits Papa Noël qui grimpent le long des volets, on voit des belles choses, il y a des arbres, les vrais arbres, sapins, il y en a autour des maisons, ils sont enguirlandés, et t'as pas besoin de les couper. Alors on est quand même un pays qui protège les forêts. Et vraiment, c'est magnifique en hiver, c'est très beau.
Alors, c'est un pays de lacs, de montagnes, il y a aussi de très beaux châteaux.
Oh là là, il y en a un tous les... Parce que le duché de Savoie, tous les châteaux correspondaient par des souterrains. Et ils sont à 3-4 kilomètres. Déjà dans mon village, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle le château de Ripaille, qui a été construit par un duc de Savoie qui s'appelle Amédée VIII, en 1500 et quelques, qui rentrait de la guerre de Cent Ans. Il a fait construire un château avec 7 tours, une tour pour chacun de ses chevaliers. C'est joli comme histoire, hein. Et il était très sage, il était élu pape sous le nom de Félix VI. Et oui, c'était la grande époque avant Avignon. et il y a eu des guerres, il a perdu une ou deux tours. Des guerres avec le Genevois, le comté du Genevois. Et puis, il y a un autre château qui est dans mon village, où j'ai passé toute mon enfance, c'est le château de Thuisay. Et j'ai passé une enfance délicieuse en jouant dans cette propriété. Il y avait un pont fleuri des lilas qui faisait 100 mètres, qui était d'une beauté. Il était sombre, on voyait l'horizon au bout, comme ça, la lumière du jour. Et quand j'ai traversé ce bois de lilas, je prenais sur moi, on avait peur, c'était un peu sombre à l'intérieur. Et vraiment, j'avais deux arbres, le grand chêne et le vieux tilleul. C'était nos arbres, on les grimpait. Le vieux tilleul, c'était notre maison. On inventait des choses. Oh, mais j'ai des sonneurs fabuleux.
C'est Noël et vous nous offrez un joli cadeau avec un nouvel album, Amour et Piano, avec une très bonne idée, c'est-à-dire revisiter vos grands tubes. Oui. Et Dieu sait que vous en avez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Bien, j'ai fait une chanson, Il est mort le soleil, avec Marina Kay, qui est une merveilleuse jeune chanteuse. Et c'est la première fois qu'elle chante en français. Elle chante beaucoup en anglais. Et je suis très contente qu'elle soit venue avec moi. Ensuite, j'ai un bonus, un original de Carla Bruni, Paroles et musique. Et tout ça sous forme de blues. Et puis, j'ai surtout un musicien merveilleux qui m'accompagne dans deux chansons de mon répertoire, comme Saint-Germain-des-Prés, Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés, et La solitude de Bécaud. Mais là, c'est très jazz, parce que j'ai Eric Truffaz, qui est un excellent trompettiste, qui est venu m'accompagner.
On va s'acheter l'album, voilà. Et ensuite, on va aller se balader en Haute-Savoie. Merci beaucoup, Nicole.
C'est avec plaisir, au revoir.
Merci, petite Nicoletta. 50 ans de carrière, s'il vous plaît. Hein. L'album, ça s'appelle Amour et Piano. Daniel, on vous retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité qui viendra nous conter la France de son enfance.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans cette partie de l'émission, chaque samedi, nous vous emmenons en général prendre un peu l'air. L'air frais en ce moment, oui, absolument. Il arrive que la proposition soit un peu sportive, c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut dire que la France offre une telle diversité d'activités qu'à chaque fois, on a à cœur de vous étonner. Hein. Vous allez voir, il me semble que cette fois-ci, c'est le cas encore. Kevin Clemente Ruiz, notre routard skieur pour l'occasion. Alors, de quoi il s'agit? Alors, ça vient des pays du nord de l'Europe. Ça s'appelle le ski Joring. Joring, ça s'écrit J-O-E-R-I-N-G. Mais qu'est-ce que c'est? Ça se pratique où et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors oui, potentiellement, on peut faire du ski Joring un peu partout, là où il y a de la neige et là où il y a des chevaux. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le Jura, à Longchaumois, à 1h15 de Lons-le-Saunier. Mais d'abord, je dois vous dire que le ski Joring, c'est une activité qui consiste à se faire tracter par des chevaux en tenant debout, attention, sur des skis.
Mmh.
Croyez-moi, il vaut mieux savoir skier, mais les sensations que ça procure sont assez exceptionnelles.
Alors, ça vient du nord de l'Europe, c'est ça, on est d'accord?
Ouais, c'est une activité qui nous vient de Scandinavie, précisément, où la neige est présente plus souvent et plus longtemps. Mmh. Alors, autrefois, on ne se faisait d'ailleurs pas tracter par un cheval, mais par un renne,
ah oui,
là-bas. Et c'est en Suisse, à Saint-Moritz, que cette activité qui était à l'origine pratiquée simplement pour se déplacer est devenue ludique et même sportive.
Oui, mais à l'époque, ils allaient de village en village comme ça, de cette manière-là.
C'est
quoi.
Ça. Ouais. Et c'était, en fait, on peut dire, l'ancêtre du tire-fesse ou des remontées mécaniques. et on a retrouvé ça sur des cartes postales du siècle dernier. On voit des skieurs qui sont tractés par des chevaux.
Alors, pour en savoir plus sur cette activité, nous avons en ligne Aline Marlière de la ferme équestre de la Pelesse. Bonjour Aline.
Bonjour William et bonjour Kevin.
Bonjour.
Comment est-ce que vous avez découvert ce sport, vous? Ça fait longtemps que vous proposez ça à vos clients?
En fait, moi, j'en ai fait avant et j'ai commencé à proposer ce sport à mes clients à partir des années 2012.
Mmh.
Parce qu'en fait, on commence à avoir beaucoup de neige et assez régulièrement, mais trop un peu.
Ah.
Et comme moi, je fais beaucoup de balades en forêt et bon, de la randonnée,
ouais,
équestre,
ouais.
Ça me permettait de continuer mes activités, que les chevaux aient une activité également. Et
ah
voilà.
Oui, c'est vrai. C'est qu'à la belle saison, vous faites des balades à cheval. Et puis,
ouais,
l'hiver avec la neige, bon, des balades en raquette peut-être, ou à pied, avec la
neige. Balade à cheval aussi, balade à cheval.
Ouais. Et là, vous avez combiné les deux. Hein. Quelques questions préalables. Alors, il faut être bon en ski, je suppose, oui.
Alors, pas nécessairement, parce que, bon, il y a deux types de clients. Hein. Soit c'est les familles avec des enfants, des jeunes enfants, qui veulent s'initier un petit peu, soit... au ski, l'attraction par le cheval, et puis qui veulent passer du bon temps, donc ça ne sera pas un grand niveau technique. Hein, donc, et l'avantage, c'est qu'on a un couple cheval-cavalier qui peut faire attention au skieur qui est derrière, ou à la skieuse qui est derrière, et s'arrêter quand il se passe quelque chose.
Ah, d'accord, parce que je me posais la question, parce que quand on voit parfois des images, notamment de ce qui se passe en Scandinavie, ben le cheval, il y a deux rênes de part et d'autre, et c'est le gars qui est derrière sur ses skis qui pilote un peu, lui. Tandis que là, il y a quelqu'un sur le cheval.
En fait, on peut faire aussi, comme vous décrivez, là, être autonome en ski touring avec le cheval, mais là, ça demande quand même là, des notions un petit peu d'équestre. Parce qu'on est quand même sur la bouche du cheval, donc c'est de l'attelage, donc il ne faut pas tirer n'importe comment. Et puis en plus, c'est difficile parce qu'il faut quand même avoir de l'équilibre, penser donc, à s'accrocher, mais sans tirer sur la bouche du cheval, penser à ses skis,
c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il faut penser deux fois. Penser deux fois, un animateur de radio était... Ça, c'est difficile. Ouais. Alors on va penser à ses skis d'abord. Des skis, il vaut mieux qu'ils soient un peu longs ou plutôt courts?
Non, il faut vraiment des skis courts pour ne pas s'approcher trop près du cheval.
Oui.
Et puis, ce qu'on appelle un peu des patinettes, en fait. Et surtout, penser à il faut venir avec des skis de descente, des skis alpins. Parce qu'il faut que le pied soit bien tenu. Alors que les skis nordiques, les skis de fond...
Mais vous avez dit venir, on ne loue pas les skis chez vous?
Non, alors on ne loue pas les skis chez moi, je ne suis pas une spécialiste des skis en tant que telle, donc je préfère que les personnes viennent, il y a plein de possibilités de louer des skis là, même pas très loin, donc elles viennent avec leur ski en général. Bon, les personnes qui viennent faire ce sport-là viennent parce qu'elles font du ski en général, donc, ou parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui aime bien faire du cheval, souvent les filles, et donc du coup, elles ont déjà leur matériel, ou je leur indique une possibilité de louer du matériel pas trop cher, avec des skis pas trop neufs non plus, hein. Il faut quand même des skis... qui peuvent aller un petit peu dans la nature.
Oui, deux choses. D'abord, il faut qu'il y ait suffisamment de neige. Il faut qu'il y ait un manteau assez épais quand même pour pratiquer ce sport. Et une balade, ça dure combien de temps?
La balade, ça peut durer une heure. Mmh. Mais il faut savoir que la séance, elle comprend quand même l'initiation, c'est-à-dire le contact avec le cheval d'abord. On s'en occupe, on le brosse, on lui dit bonjour, on aide à mettre le harnais, etc. On ajuste le matériel. Après, il y a une initiation donc, près de la ferme, sur une piste qui est près de la ferme, pour voir déjà ce que ça donne. Garder son équilibre, tenir son équilibre, faire les virages. Mmh. Et après, en fonction du niveau des personnes, oui, on sort. Puis en fonction du niveau d'enneigement, ce qui se passe dehors dans la nature, quoi. À ce moment-là, on sort, ou alors, sinon, on va sur des pistes plus grandes.
Petit détail, j'essaye de m'imaginer être en train de pratiquer ça. Je me dis que dans le virage, on soulève les pieds ou on reste les deux pieds sur la neige, en fonction du virage.
Alors là, je veux dire, c'est un peu comme vous le sentez. Ça dépend du virage. Hein. C'est normalement, on va pas...
Parce que là,
planter du bâton.
Mais on soulève un et puis on repose l'autre. Voilà.
Oui, vous faites comme vous voulez, en fait.
Au feeling.
Selon votre niveau de ski, les bons skieurs, on va dire, qui ont déjà parti sur une certaine vitesse, là, eux, ils peuvent effectivement soulever les skis pour avoir un peu plus de glisse.
Et la piste, elle est à travers une forêt, des arbres, ou alors c'est plat, il n'y a pas de problème, on ne risque pas de se prendre un arbre dans la tronche?
Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ceux qui veulent recevoir un arbre sur la tête, ils vont en forêt. Sinon, vous allez sur un ring, soit sur une piste où il n'y a pas d'anneau vraiment, ou alors sur une piste plus grande où il y a un anneau avec différentes possibilités de circuit. C'est déjà pas mal quand vous initiez. Et vous restez sur ce type de surface. Et ça, c'est plat, donc c'est moins difficile quand même. Mm-hmm. Et puis sinon, en forêt, le plus difficile, c'est les descentes.
Ah ouais? Parce qu'il y a des descentes en plus.
Ah on est en montagne.
Ah ouais. Alors celui qui est sur le cheval, il rétrograde la vitesse de temps en temps.
Oui. Après, c'est pas des grandes descentes. Hein. C'est pas les descentes de ski alpin, ce que vous avez quand vous faites du ski de descente. C'est simplement des descentes, comme vous êtes en randonnée, vous descendez en raquette, mais des petites descentes. Seulement, les skis, ils glissent. Ouais. Et donc, il faut savoir freiner pour ne pas vous retrouver trop près du cheval, ou même dire, à côté du cheval.
Alors, on descend. Oula, ah oui, d'accord.
Je vous sens sceptique, là, William.
Non,
tout
non, mais
coup.
Je vois, ça veut dire qu'il faut, y aller de côté de temps en temps, quoi, pour, à cause
ouais,
de la vie.
C'est simple. Oui,
Aline, vous lui montrerez, Aline, hein, ça va aller.
Oui, ah. oui, non, mais c'est pas. En fait, voilà, au début, ça fait. Il faut avoir des réflexes, et puis une fois qu'on comprend comment ça se passe, puis de toute façon.
Oui, on fait un peu un pas chassé, quoi, pour éviter de descendre tout droit, parce que sinon, vous rattrapez le cheval.
Voilà, bon, voilà, quand c'est des descentes un peu plus importantes.
Mais le mec qui est sur le cheval, il voit passer son client.
Voilà, c'est ah ouais, ça.
C'est pas prévu comme ça. Très bien, alors quand on aime bien le ski et les chevaux comme vous, Aline, donc direction la ferme équestre de la Pelesse, c'est à Longchaumois, c'est dans le Haut-Jura. Merci beaucoup pour ces informations, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'il neige en ce moment, oui.
Ah, il neige beaucoup. Hein.
Ah, bah ça, c'est bien. Beaucoup. Eh bien, vous allez probablement avoir des clients supplémentaires. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup.
Au
merci
revoir.
Beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir.
Alors, Gavitz, donc, on a tout compris, là. Combien ça coûte, tout ça ?
40 euros par personne pour dépasser le cheval, ça va ?
Non ah ouais. Allez. Non, mais franchement, le mec qui passe à côté, ça va, toi ? Bah ouais, ça va.
Et donc, il faut venir avec ses propres skis, c'est
oui,
mieux,
ça, c'est important.
En effet, n'oubliez pas. Et 40 euros par personne. Donc, à partir de 40 euros, il y a plusieurs offres possibles selon la durée.
Alors, quand
et
on
le
reste
circuit.
Sur place, on peut se ravitailler en produits locaux. En général, ouais. Il y a ça dans le coin.
Carrément. Là, je vous invite à aller à la Fruitière à Comté, à Grande-Rivière. C'est l'endroit idéal pour faire le plein de Comté, bien entendu, mais aussi de Morbier. Qu'est-ce que... Ouh, j'en ai déjà envie, là.
Alors, on termine avec un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. 4 sites, comme d'habitude. Allons-y, Gavitz.
Très différents. Nous avons visité le palais idéal du facteur cheval dans la Drôme, avec une belle expo sur Agnès Varda. Nous avons aussi été éblouis par le retable d'Issenheim à Colmar, au musée
oui.
Unterlinden.
Et là, c'est le site sacré, 25 décembre, Noël, etc.
Et ensuite, on a fait de très beaux bouquets. On a appris à en faire, en tout cas, dans l'atelier floral du château de Chenonceau. Et enfin, nous venons de faire du ski joring avec Aline à ski et tracté par des chevaux dans le Jura.
Voilà, j'espère que tout cela vous a intéressé parce que c'est original et vous ignoriez peut-être l'existence de ces sites-là. Pour terminer, alors, d'habitude, c'est un film, un livre ou une expo ou même un magazine. Alors là, c'est le cas. Ça va vous permettre peut-être de vous déplacer et de visiter quelques sites dont on vous parle ici chaque semaine. Alors, c'est quoi ce magazine ?
En effet, ça s'appelle Planète Van et Fourgon. C'est tout neuf, c'est le numéro 1. C'est un journal qui parle de van. Le van, c'est quoi ? C'est plus petit qu'un camping-car et c'est plus gros qu'une camionnette. Et c'est beaucoup plus maniable. C'est vraiment dans la tendance. Et ça va vous aider, ce magazine, à choisir votre van. Il y a des comparatifs et on vous suggère des idées de séjour pour vos déplacements en van, bien sûr, à travers la France et ailleurs, si vous le souhaitez. Ça s'appelle Planète Van et Fourgon, et c'est un magazine.
Et vous avez testé Van, vous
ah, j'adore.
Pour le guide du routard, vous l'avez
fait ? Pour le routard magazine, ouais, je l'ai fait, et j'adore ça. Vraiment, c'est une chouette expérience avec les enfants, avec la famille, c'est
combien,
chouette.
Oui, non, mais on monte à combien dans un van ?
Eh bien, on peut être à 4, 5.
À 4, ah oui,
ouais,
d'accord.
4, 5, et on okay. se promène partout, et il y a des agences de location, si vous le souhaitez, et vous pouvez acheter le vôtre après, quand vous avez lu Planète, Van et Fourgon.
L'émission est terminée. Merci également à Maryse Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Morgane Biquilé et Gavin Scrémanté-Ruiz. Donc, quant à nous, nous vous retrouverons samedi prochain, c'est à 15h, pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites en France. Ça va de soi. Bon après-midi sur Europe 1 et joyeux Noël.